Alors, nous allons vous donner aujourd'hui un aperçu des pièces de théâtre qui ont été jouées depuis pas mal d'années par l'association Handicap Évasion 04. La première scène que nous avons jouée, c'était une adaptation du film que Giono avait tourné, Crésus. C'est un film que Giono a tourné dans la région, du côté de la montagne de Lure, avec comme personnage principal Fernandel dans le rôle de Jules le berger. Alors Jules, dans le film, c'est un pauvre berger qui garde son troupeau sur les hauteurs de la montagne de Lure. C'est un pauvre berger, il est pauvre. Il est pauvre, mais finalement, il n'est pas si pauvre que ça parce que il a froid, il se chauffe. Il a chaud, il se met au frais. Il a faim, il mange. Il a soif, il boit. Et même, il a envie de tendresse, il met la lampe à la fenêtre et la bergère fine qui est à 1 km de là, elle arrive en courant. Donc, il a tout ce qu'il faut finalement. Alors, la première scène que nous allons jouer est une scène qui se passe à l'intérieur justement de la bergerie de Jules. Et Jules est en train de consulter le catalogue qu'il y avait dans toutes les fermes à l'époque, le catalogue de la manufacture des armes ici que de Saint-Étienne.
Jules est en train de feuilleter un catalogue. Il se lève, prend la
Couteau
lampe.
de boucher dit à saigner.
Qu'est-ce que tu fais?
Lampe pointue, renforcée, solidement montée,
Qu'est-ce que c'est?
au moyen de rivets à rosette sur un manche en hêtre. Bonne qualité. Ah, bonne
Qu'est-ce que c'est ça?
qualité. Les trois grâces. Vénus sortant du bain. Sortant du bain. Amour et psyché. D'après Canova, musée du Louvre. Oh. Patiner, vieux Sèvres. Patiner, vieux Sèvres. Patiner, vieux Sèvres. Oh, ça fait 2 jours que j'ai pas mis la lampe.
Il la pose sur le rebord. Il tire un énorme oignon de sa poche gousse.
1 km, un quart d'heure, comme les soldats.
Il remet sa montre en place.
Dans un quart d'heure, patiner, vieux Sèvres.
Bruit dehors.
Qu'est-ce que c'est?
Il ouvre la porte.
Tu es déjà là?
Tu as mis la lampe?
Jules regarde sa montre.
1 minute, 1 km, tu fais du 60 à l'heure maintenant?
Il prend la lampe et la pose sur la table.
J'étais pas chez moi, j'étais sur la crête.
Sur la crête? Et pourquoi sur la crête?
J'avais froid aux pieds.
Mais tu te chauffes les pieds sur la crête?
Non, j'attendais que tu mettes la lampe. Et maintenant, ils sont gelés. Quand j'avais mon mari, j'avais pas besoin de me planter sur la crête.
Oh, ton mari, toujours ton mari.
Oui, mon mari. S'il n'était pas mort, je serais pas là.
Tu serais pas là. Et où tu serais?
Dans le lit, avec lui.
Elle s'approche tout contre Jules.
Allez, va, que je suis glacée. Chauffe-moi un peu.
Jules la repoussant un peu.
Oh, doucement, doucement. J'aime pas le froid, moi. Chauffe-toi au poêle.
Finn se tourne vers le fourneau.
Il est mort, ton poêle.
Eh bien, tu vois, ton mari est mort, mon poêle est mort, tout le monde est mort, il reste plus que moi. Alors, patience.
Si tu avais les pieds glacés, tu perdrais patience.
Et je les ai, les pieds glacés. Ça me fait pas courir chez les gens à 60 km à l'heure.
Jules consulte sa montre.
Et c'est à peu près l'heure. Hey, je te fais cadeau de 5 minutes et tu dis que je te donne jamais rien. Dis-moi, tu sais ce que c'est? Patiner, vieux Sèvres?
Ils sortent pour se coucher.
Viens, viens, je vais te faire voir. Donc voilà la première scène de la lampe. Donc Jules, finalement, eh bien, il ne manque de rien. Il est riche si on veut, mais il va devenir vraiment riche parce que au milieu de son troupeau de brebis, un jour, il va trouver une bombe. Oh, une bombe, une bombe. Il s'approche, il tire un coup de fusil et finalement, la bombe s'ouvre. Ce n'est pas une bombe, c'est un conteneur avec 2 mètres cubes de billets de 5 000 francs. Donc le voilà soudainement extrêmement riche. Alors il amène ses liasses de billets dans sa bergerie, et là, sans souci, il voudrait savoir de combien il dispose, de quelle fortune il dispose, et surtout mettre un mot, mettre un nom sur sa fortune. Quelle est la valeur de sa fortune? Ce sont des millions, des milliards, mais combien? Alors il se met à aligner les chiffres sur les murs, mais il n'y a que des zéros, et il ne se rappelle plus comment il faut faire avec les zéros. On les ajoute, on les multiplie, ses souvenirs d'arithmétique de l'école sont très lointains, et finalement il va décider d'aller voir l'ancienne institutrice de l'école qui enseigne toujours. Il tape à la porte de l'école, et donc on va vous jouer maintenant une deuxième scène qui est l'école.
Entrez.
Bonjour, mademoiselle Delphine. Je ne vous dérange pas?
Bonjour, Jules. Entre. Qu'est-ce que tu veux?
Mademoiselle Delphine, ça serait au sujet du zéro.
Qu'est-ce qu'il t'a fait, le zéro?
Mais comment ça se multiplie?
Je te l'ai appris.
Entre ce que vous m'avez appris et ce que j'ai appris, je ne sais plus rien.
Le zéro ne se multiplie pas. Il s'ajoute. Tu comprends?
Pas trop.
Va au tableau. Marque un chiffre.
Celui que je veux?
Celui que tu veux.
Jules se met à écrire de gros zéros les uns à la suite des autres.
Qu'est-ce que tu fais là, imbécile?
Mais j'écris bon chiffre.
C'est pas un chiffre. Il n'y a que des zéros.
Eh bien voilà justement où les Éthéniens s'atteignirent.
Veux-tu te taire? D'abord, ce n'est pas les Éthéniens, c'est Athéniens, habitants d'Athènes. Et tu ne sais pas ce que c'est. Ensuite, il n'y a que des zéros. Ce n'est pas un nombre, c'est une succession de zéros qui signifie zéro. C'était au début de ton arithmétique.
Mais au début, peut-être, mais à la fin?
À la fin, tu n'y es jamais arrivé, crétin. Et si tu y étais arrivé, tu aurais su que c'était pareil. C'est une science exacte.
Oh, je dis pas le contraire et je discute pas l'exactitude. Je l'aime beaucoup. Mais alors, pour faire 1000, comment on fait?
On met un 1 devant, idiot. Tu as jamais vu des billets de banque?
Si, il y a quelques-uns.
Tu poses 1.
Jules se retourne vers le tableau.
Pose-le. Ajoute un 0, c'est 10. 2 zéros, c'est 100. 3 zéros, c'est 1000. Maintenant, il compte tes zéros. 6 zéros, 1 million. Ajoute-en 3, 9 millions. 1 milliard. Ajoute-en encore 3, 1 million de milliards, et ainsi de suite. Tu vois qu'il compte tes zéros maintenant.
Oh, mais alors, mademoiselle, je me suis mal expliqué. Ça, 10, 100. 1000, 1 million, je me débrouille, même 1 milliard.
Non, 1 milliard, tu te débrouilles plus. Si tu avais 1 milliard de pièces de 20 sous, il te faudrait 2000 ans pour les compter, à raison d'une pièce par seconde pendant 24 heures par jour. Et 1 million de milliards, 1 million de fois plus, 1 million par seconde pendant 2000 ans, sans dormir, sans manger, jour et nuit, qu'est-ce que je dis? Sans dormir, sans manger et sans coucher avec Fine.
Oh, mais qu'est-ce qui couche avec Fine? Dites, mademoiselle Delphine, devant les enfants.
Les enfants sont là pour s'instruire. Et puis, tout le monde le sait. Alors tu vois, les milliards et ainsi de suite.
Jules pose la craie et revient vers Delphine.
Et c'est un problème d'ainsi de suite. C'est à partir de l'ainsi de suite que je suis foutu. Parce que moi, je voudrais parler d'un chiffre de 30 zéros.
30 zéros? Tu fais de l'astronomie?
De l'astronomie? Ben non. Pourquoi?
Parce que 30 zéros dans le ciel, ça se prononce. Mais sur la Terre, c'est imprononçable.
Jules s'assoit.
Mais enfin, celui qui a 1000 francs, il prononce « j'ai 1000 francs ». Celui qui a 100 000 francs, il prononce « j'ai 100 000 francs ». Celui qui a 1 million, il prononce « j'ai 1 million ». Mais celui qui a des milliards, qu'est-ce qu'il prononce?
Il prononce pas, il éclate. Qu'est-ce que tu veux faire avec des milliards? Si tu as des milliards, tu éclates.
Et si je veux pas éclater?
Ah, si tu veux pas éclater, alors je sais pas. Alors il y a les banques. Les banques, c'est des soupapes de sécurité, comme à la batteuse. Quand il y a trop de pression, ça siffle.
Voilà pour cette deuxième scène de l'école. Et Jules va mettre en application le conseil de l'institutrice. Il va aller placer son argent à la banque. Mais d'abord, il va le placer, cet argent. Il fait creuser une énorme citerne et il enterre son argent dans une citerne. Voilà, il est placé. Et il se rend à la banque, une première banque. La scène du film avait été tournée à Fort-Calquier. La première banque dans laquelle Jules se rend, c'est une banque minuscule. Et dans cette banque-là, l'employé est énorme. Quand Jules rentre, on ne peut plus se bouger. Donc Jules se dit, ça ne peut pas faire. Mes 2 mètres cubes de billets de banque jamais ne rentreront dans cette banque. Et il change de banque, il va voir une banque un peu plus importante. Il rentre dans la banque. Il n'y a personne.
Surgissant du comptoir, la tête puis le buste.
Il y a moi, monsieur.
Vous êtes l'employé ?
Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a à votre service ?
Je voudrais un peu mesurer ici dedans. Ça vous gêne pas ?
Non, monsieur. Mais pourquoi voulez-vous mesurer ?
Jules dépliant son maître.
Je voudrais un peu savoir la largeur de cette banque.
À votre service.
Jules lui donne le maître. L'employé mesure l'espace qui lui est dévolu derrière le comptoir.
3 mètres 10.
Vous voudriez pas vous mesurer un peu, vous, les épaules, pour voir ?
43 centimètres.
Oh, ça vous laisse beaucoup d'espace, hein ? Vous vous sentez à votre aise, oui ?
Très à mon aise.
Et d'ici, voyons un peu.
Il mesure.
2 mètres 20. Vous voudriez pas venir ici, à côté de moi ?
Mais si, à votre service.
Le gendarme regarde de l'extérieur, intrigué.
Mettez-vous à côté de moi. Il reste pas mal de place. Même étant tous les deux, on pourrait mettre quelques caisses par-ci, par-là. Et vos collègues, ils sont un peu comme vous ou bien ils sont plus gros ?
Oh, ils sont guère plus gros que moi.
Alors, ça doit aller. Bougeons un peu pour voir. Allons jusque là-bas au fond, faisons quelques gestes.
Le gendarme se dirige menaçant vers Jules.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous avez à gesticuler, vous ?
Bon, je gesticule pas. Je regarde si on pourra se bouger dans cette banque si j'apporte mes sous.
Vous en avez beaucoup ?
2 mètres cubes.
D'argenterie ?
Non, des billets de banque, des gros, là. 5 000.
Ça fait quelle somme ?
Oh, imprononçable. Astronomique.
Vous êtes astronome ?
Non, je suis à l'hospitalier là-haut, près de Banon.
Alors, vous avez de l'argent à placer.
Oh, il est placé. Je ne serais pas venu comme ça sans l'avoir placé. Il est placé et bien placé.
Qu'est-ce que vous avez acheté ? Des valeurs industrielles ?
Valeurs industrielles ? Qu'est-ce que c'est ?
Et qu'est-ce qu'elles font, ces valeurs industrielles ?
Elles baissent.
Chaque fois que je le demande, elles baissent.
C'est le moment d'acheter.
Et d'acheter quoi ?
Il n'y a que l'embarras du choix. C'est facile. Il n'y a qu'à prendre la cote. Toute la cote, là, est du haut en bas, de là jusque là, et puis 10 pages. Vous en avez 10 pages. Tout ça, ça baisse. Tout ça, on peut tout acheter. Tout. Moi, si j'avais des sous, j'achèterais tout. Tenez là, l'électricité. Terrible, l'électricité. Valeur d'avenir. Tout électrique. Les trains, les trams, les trucs. Et le pétrole ? Le pétrole, alors le pétrole, oh là là, le pétrole, alors ça, le pétrole. Et la métallurgie ?
Et que je ferai de la métallurgie ?
Rien.
J'en ai, moi.
Et qu'est-ce que vous en faites ?
Je demande si ça baisse, et on me dit, oui, ça baisse.
Et ça vous fait plaisir ?
Non.
Moi, je voudrais acheter des choses qui font plaisir.
Qu'est-ce que vous avez ? Des millions ?
Oh ! C'est pire.
Vous avez quand même pas des milliards.
C'est quelque chose dans ce genre, mais beaucoup plus gros.
C'est pas possible parce que vous ne vous rendez pas compte des choses. Les milliards, c'est incompréhensible. Vous avez pas envie d'une bicyclette ?
Oh, oui, une bicyclette, peut-être.
Eh bien, avec des milliards, C'est pas une bicyclette qu'on peut s'acheter. C'est 10 000 bicyclettes, et pas par an, ni par jour, mais par seconde. Vous entendez ? Par seconde. 10 000 bicyclettes, 10 000, 10 000, et pan, et pan, et pan. Et pendant 5 000 ans. Et c'est pas fini, vous allez voir.
10 000 bicyclettes, 10 000 bicyclettes par seconde, et pendant 5 000 ans. Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces bicyclettes ? Je n'ai qu'une seule paire de fesses pour toute ma vie. Donc voilà la troisième scène de notre adaptation que nous avons faite pour le théâtre du film Crésus de Jean Giono. Nous allons maintenant vous donner un aperçu d'une autre adaptation que nous avons faite, cette fois-ci d'un roman de Giono, c'est le roman Regain. Alors Regain, c'est l'histoire d'un petit village de Haute-Provence qui est moribond. Il est quasiment déserté, il n'y a plus que trois personnes qui y habitent. Il y a le père Gobert, qui est un vieux forgeron, il est très vieux, et il s'apprête à partir chez son fils qui habite en ville. Il y a la mamèche, qui est une vieille femme, une vieille prémontaise, qui est veuve de son mari était puisatier, il creusait des puits, c'était son métier, et puis un jour il est mort au fond d'un puits. Et puis la pauvre femme, la pauvre mamèche, elle a perdu aussi son petit garçon, son enfant, empoisonné parce qu'il avait mangé de la ciguë. Voilà, cette pauvre femme, la mamèche, c'est le deuxième personnage qui habite le village d'Aubignane, le village moribond. Et le troisième personnage, c'est Panturle. Alors Panturle, lui, c'est le dieu Pan qui habite Lure. Lui, il est célibataire, il n'a plus de goût à rien, il ne cultive plus rien, il ne vit que de chasse, de pêche et de cueillette. Et voilà, c'est le Panturle qui vient voir la mamèche comme tous les matins. Oh, mamèche !
Alors qu'elle installe trois bols sur la table.
Oh, fils !
C'est plus la peine d'en mettre trois.
Comment ? Il est...
Non, il vient de partir.
Et partir où ?
Chez l'enfant.
Chez l'enfant, chez l'enfant. Ah, Madonna, Madonna ! Alors c'est tous ? Alors c'est tous, je suis pas vieille, moi, je pars, moi, j'en ai, moi, de l'enfant. À quoi il a servi, mon homme, mort dans votre cochon de pays ? À quoi il a servi d'aller vous chercher l'eau ? Il est allé vous la chercher avec sa vie ? Je pars, moi, je suis pas vieille, moi.
Elle jette le bol de lait à la figure de la Vierge.
Ah, porca ! Alors tu les as laissé pourrir, mes prières.
Écoute...
Et à quoi ça a servi sa mort ? Quand ils l'ont fait mourir, ils se sont mis à partir les uns après les autres, comme des cochons qui vont au gland.
Écoute, écoute, mamèche, viens là, viens à côté de moi, viens. On est là, tous les deux.
Ils sont là un long moment, sans rien dire.
Fils.
La mère, allez, mamèche, il faut boire.
Un silence. Ils boivent. Silence.
Et puis, il faut que tu manges aussi, mamèche. Je dois descendre à la cave. Tu as encore des pommes de terre ?
Oui, encore quelques-unes. Il va falloir qu'on soit bien serrés tous les deux maintenant pour tenir.
Panturle sort de la scène. La mamèche s'approche de la Vierge.
Bellissima, mia bella, celle que j'aime plus que tout. Viens que je t'essuie. Va, ne t'inquiète pas, tu es toujours ma belle.
S'adressant à Panturle qui revient.
Tourne-toi un peu devant le feu que je te regarde.
Tu m'as vu.
Je t'ai vu.
Et alors ? Oui, c'est vrai. Il faudrait une femme. Oh, l'envie m'en prend des fois, au beau jour. Mais où elle est, celle-là, qui voudrait venir ici ?
Où elle est ? Elle est partout si tu la forces.
Ah, tu crois que ça se fait comme ça, toi ?
Tu n'es rien, alors ?
Oh, je suis comme les autres, mais je te dis, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que ça vienne de plus loin et de longtemps.
Si je t'emmène une, tu la prends ? Si je t'emmène une, moi, de femme, tu la prends ?
Ah oui, je la prends. Donc voilà cette scène de la mamèche avec Panturle, après le départ du père Gobert. Et il ne se trouve plus que deux maintenant, la mamèche et Panturle. Et finalement, la mamèche, elle décide d'aller chercher une femme pour Panturle. Et elle sait que chaque année, au printemps, dans un village voisin, il y a un vieux rémouleur qui s'appelle Gédémus. Le rémouleur, c'est celui qui, à l'époque, faisait le tour de tous les pays, de tous les villages dans la région, dans le pays, pour aiguiser les couteaux, les ciseaux, etc. Et il se déplaçait avec une grande roue tirée, une grande meule, posée sur une roue, un petit peu comme les géolettes que nous utilisons à Handicap Évasion 04. Et cette roue, cette meule, il faut la tirer. Et là, le vieux Gédémus, il a récupéré une jeune comédienne qui s'appelle Arsule, qui était de passage dans un village pour jouer, parce qu'elle était comédienne, elle venait de Paris, elle jouait des pièces de théâtre, et elle a été maltraitée par les habitants du village, elle a été même très maltraitée dans une grange, et c'est Gédémus, le rémouleur, qui l'a sauvée des griffes de ses violeurs, et Gédémus, il l'a récupérée, et depuis, elle lui fait tout. Elle lui fait la soupe et tout. Voilà. Alors, Gédémus fait sa tournée dans le pays avec Arsule qui tire la meule. Et ils arrivent près du village d'Aubignane, où ne reste plus que Panturle et la mamèche. Mais là, le village semble désert. Tout est barricadé. Panturle, il est derrière la fenêtre de sa maison. Il voit arriver ce couple mal assorti. Il se cache. Et puis le couple s'installe pour passer la nuit en bordure du petit ruisseau qui coule là au pied du village. Et Panturle, il voit cette jeune femme qui fait sa toilette dans le ruisseau et il part comme à la chasse. Il part sur la pointe des pieds en rampant exactement comme un chasseur qui va attraper son gibier. Il grimpe sur un arbre et tout d'un coup, il y a une branche de l'arbre qui se casse et Panturle tombe dans l'eau, il s'évanouit. Et c'est Arsule qui le tire de l'eau. Gédémus, lui, s'est endormi un peu plus loin, et Arsule fait la connaissance de Panturle. Voilà. Et il lui dit, viens à la maison, il récupère Arsule. Voilà. Et finalement, Panturle, il reprend goût à la vie, parce qu'avec cette jeune femme à la maison, voilà, il remet les champs en culture, il fait du blé pour faire du pain, la vie revient. Mais Gédémus, lui, qui est reparti tout esselé, il ne sait plus où elle est passée, sa femme, sa compagne, Arsule. Et puis finalement, un jour, il apprend que, eh bien, elle est là, à Aubignane, et il revient. Et il revient pour voir ce qu'il peut négocier, pour non pas la récupérer, mais pour en tirer quelques profits. Donc il est dans sa maison, Panturle, et il est en train d'aiguiser un couteau.
C'est pas la maison de peinture, le ça ici.
C'est.
Salut.
Salut.
Je viens un peu voir pour. Attends, ça ne te fait rien que j'entre. Il fait pas chaud dehors. Il fait meilleur ici.
Oui, il fait pas mauvais. Tu es seul?
Oh, oui, je suis seul.
Effrayé par le couteau.
Et je m'y connais en couteau. Je suis aiguiseur. Et ça, c'est un bon couteau.
Ah, c'est ça.
Oui, c'est ça. Alors, voilà. J'ai demandé et on m'a dit. Il est à Aubignane. J'ai quelque chose à te dire.
Dis.
Moi, une fois, j'ai passé par ici et je suis venu juste à cette maison. Mais il n'y avait personne. Puis, cette fois-là aussi, j'ai tiré du ruisseau un homme qui se noyait.
Je sais.
Tu sais?
Oui, c'était moi.
C'était toi? Ah bon? C'était toi? Alors, ah bon? Parce que justement, tu pourras me dire et m'expliquer. Voilà en deux mots. Cette fois-là, puisque c'était toi, J'étais avec une femme. Tu le sais ? J'étais avec une femme, donc. C'était une que j'avais ramassée. Et c'est pas de la fine fleur, mais de la roulure d'un peu partout. Elle vaut pas un P de la paix. Tiens, j'ai eu un chien, moi. J'en avais plus de satisfaction. Collègue, voilà, j'ai tout dit. C'est pour ton bien. Il m'a semblé te voir à la foire. Et on m'a dit que tu sais où elle est, cette femme.
Oui, je le sais. Elle est ici, avec moi.
Et alors ?
Alors rien.
Après tout ce que je t'ai dit ?
Oui, oui, après tout ce que tu as dit, parce que ça ne compte pas, et voilà. D'abord, si elle est si mauvaise que ça, tu dois être bien content d'être débarrassé.
Oui, mais c'était ma femme et je l'ai nourrie pendant 2 ans.
Tu l'as nourrie pendant 2 ans ? C'est possible. Et toi, collègue, tu as un peu pensé que comme ça, elle t'avait donné 2 ans de sa vie à elle ? Oh, ça ne devait pas donner beaucoup envie de rire d'être avec toi. Tu as quel âge ? Bah, ne réponds pas, ça se voit. Tu me comprends ? À mon avis, c'est payé.
Ça va, ça va, ça va. Je suis payé, tu dis. Et tu dis que je suis vieux. Bon, c'est de ça justement que je suis venu te parler. Je suis vieux. Elle me traînait la charrette.
Achète-toi un âne.
C'est cher.
Bon, écoute, à te dire le vrai, je t'attendais un jour ou l'autre. Tu es venu ce jour-là. On va régler ça ce jour-là et ce sera fini. Tu vas voir. Voilà. L'âne, je te le paye. Mais tu me comprends. Je te remplace la femme par un âne. Tu me comprends. Je te donne de quoi acheter un âne et c'est fini.
Oui, mais le harnais, la longe et tout, parce qu'il faut que je fasse mettre un brancard à ma charrette, alors.
Bon, des ânes, tu en trouveras à 30 francs tant que tu voudras. Ça sera donc 60 francs. Et voilà, tiens. Et tiens, mais tu vas me faire un papier.
Un papier ? Un papier de quoi ? Ça se fait pas pour cette chose.
Oh, ça se fait pour tout. Voilà. Tiens, tu mets reçu 60 francs. Et puis, tu signes. Ça y est, pas plus. Ça ira. On saura, toi et moi, ce que ça veut dire. Allez, va.
Maintenant, je pars.
Eh oui.
Tu sais, tout ce que je viens de te dire de la femme, là, eh bien, il n'y a rien de vrai.
Je sais. Voilà pour cette deuxième scène de Regain. Donc, ce sont les deux pièces de théâtre que nous avions adaptées d'après l'œuvre de Genot. Mais il y en a une troisième que nous avions également adaptée, que nous avons jouée 5 fois. La dernière fois, c'était à Chantercier, juste au début du confinement pour le Covid. C'était « Que ma joie demeure ». Voilà, mais là, bon, on ne va pas vous donner des extraits de « Que ma joie demeure », ce serait un peu long. Mais en ce moment, nous donnons un autre spectacle. C'est une rétrospective de ces 3 pièces de théâtre que nous avons jouées, avec justement ces trois scènes de Crésus. Que nous venons de dire au micro, c'est 2 scènes de Regain et puis 3 scènes de Comme je demeure. Et c'est dans ce spectacle que nous donnons, que nous avons intitulé sous le titre générique « Personnage extraordinaire » dans l'œuvre de Genot. Donc on donne ces 3 scènes de Crésus, ces 2 scènes de Regain et 3 scènes de Comme je demeure, en alternance avec des textes que nous lisons de l'œuvre de Genot et où nous faisons apparaître des personnages extravagants, des personnages extraordinaires. C'est le nouveau spectacle d'Handicap Évasion que nous allons jouer cette année, en 2023 et en 2024, dans la région. Voilà pour notre programme de notre prochain spectacle, Handicap Évasion 04, joué par la troupe qui s'intitule Les Baladins de la Joëlette.
Est-ce que vous pouvez présenter les...
Alors, oui, alors bien sûr. Alors, vous avez entendu, alors je les donne dans le désordre, vous avez entendu Florent dans le rôle de Gédébus, de Regain, mais vous l'avez entendu aussi dans le rôle du gendarme dans Crésus, le gendarme qui a de l'argent qui est placé dans la banque. Vous avez entendu Raymond qui joue le rôle
De l'employé de banque.
De l'employé de banque dans Crésus, mais aussi qui fait la voix off pour donner tous les détails de scénographiques. Vous avez entendu Michel qui joue plusieurs rôles. D'abord dans Crésus, le rôle dans la scène de la lampe, le rôle de Fine qui accourt quand elle voit la lampe à la fenêtre, puis ensuite qui joue le rôle de l'institutrice Delphine, toujours dans Crésus, et qui joue également dans Regain le rôle de la Bamèche. Voilà.
Et vous ?
Oui, et moi-même, Jean-Louis, voilà.
Présentez-le.
Alors ça, c'est Jean-Louis, je ne sais pas dire si c'est le mot qui convient, le leader de la troupe, celui qui anime et dirige dans le bon sens du terme la troupe avec efficacité et beaucoup de dévouement.
Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Et bravo, et j'espère qu'on fera une suite à cette émission. Mmh. Oui. Allez, j'envoie le générique. Merci à vous.
Merci à vous.